L'épargne solidaire, ça rapporte durablement avec Jérôme Trottignon, Lydie Crépé, Frédéric Hello et Vincent Dujardin.
Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Du coup, je vais commencer le tour de parole. Galanterie oblige. Donc, Lydie Crépé, je représente effectivement l'association FinanSol, qui est une association qui promeut et labellise la finance solidaire, qui est nationale, et qui existe depuis 1995. Qui organise notamment la semaine de la finance solidaire qui a lieu en novembre tous les ans pour faire connaître la finance au niveau du grand public. Je vais en quelques minutes, pour ne pas prendre trop de temps, vous redire pour ceux qui le connaissent ce qu'est la finance solidaire, comment on peut y avoir accès. Puis après on aura au fil des témoignages des situations plus concrètes. Alors la finance solidaire, finalement, qu'est-ce que c'est et de quoi on parle quand on parle de finance solidaire? C'est ce qu'on pourrait dire une finance autrement, c'est autre chose que la finance classique. Et si on veut l'imager de façon simple, moi j'aime bien dire que c'est un lien assez direct entre un porteur de projet et un épargnant. Un porteur de projet qui a un projet bien spécifique qui va aider à faire avancer des choses dans la société. De quoi on peut avoir affaire là-dedans, et ben ça peut être un porteur de projet qui est sur le domaine du social et qui va faire quelque chose au niveau par exemple de la lutte contre les exclusions, que ce soit l'accès au logement, l'accès à l'emploi. Qui va aider par rapport à la vieillesse, à la prise en charge des personnes âgées, au handicap. Donc ça, c'est le côté social. On peut avoir aussi des projets dans le domaine de l'écologie, du développement durable, tout ce qui va aider à préserver notre planète. Et puis aussi dans tout ce qui est solidarité internationale et aide aux pays en voie de développement. Et donc un épargnant qui lui aura envie d'aller directement aider ce type de projet, qui aura envie d'avoir une épargne responsable, utile, qui sera soucieux de ces sujets-là. Alors comment on a accès à cette finance-là finalement? Est-ce que c'est compliqué? Concrètement, je pourrais dire que c'est très très simple. Il y a, si on le fait simplement, trois portes d'entrée. Soit je prends la porte la plus évidente quand on parle de finance et je vais dans une banque ou dans une société d'assurance. Mais je ne vais pas demander un livret classique, je vais demander un livret solidaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un livret solidaire? C'est un livret qui partage les intérêts. Donc plutôt que je touche l'intégralité des intérêts de mon livret, je le partage avec une association que je choisis par rapport à un thème que j'aurais moi aussi choisi par rapport à ce que j'ai envie de faire avancer. Je peux aussi trouver dans certaines banques, mais pas toutes, des cartes solidaires. Je peux aussi trouver des produits financiers comme des fonds communs de placement, des SICAV qui sont solidaires, c'est-à-dire qui investissent une partie de leurs actifs dans des entreprises ESUS, de l'économie sociale et solidaire. Et puis j'ai aussi de l'assurance vie qui peut être solidaire, notamment parce qu'à l'intérieur de mon contrat d'assurance vie, je vais mettre une UC, une unité de compte qui sera solidaire. Donc voilà, ça c'est la première porte. Donc toutes les banques ne font pas les mêmes produits de partage, toutes ne le font pas, mais une bonne partie a quand même, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, a quand même une partie de sa gamme qui est solidaire. Deuxième porte d'entrée, je passe par mon entreprise. Parce que si je suis salarié d'une entreprise qui distribue de la participation ou de l'intéressement, par ce dispositif d'épargne salariale, on me propose d'investir une partie en solidaire et je peux effectivement faire ce choix d'investir une partie ou tout dans un fonds solidaire. Même chose que les titres financiers dont je vous parlais juste avant. Une partie de leur actif est investie directement dans les entreprises sociales. Et directement dans ces structures qui sont dans le solidaire. Et puis dernière façon d'aller investir dans le solidaire et de placer son épargne dans le solidaire, c'est je vais directement dans une entreprise sociale et solidaire qui ouvre son capital et j'achète une action. Ça peut être vrai, on parlait de Solidarité Internationale, CCFD, Terre Solidaire, on peut acheter des actions de la CIDI, qui est la structure de CCFD qui ouvre son capital. Habitat Humanisme, je suis moi-même salarié d'Habitat Humanisme, ouvre son capital et on peut acheter des actions solidaires d'Habitat Humanisme. C'est une façon d'investir 100% utile, parce que directement, les actions que vous achetez sont directement utilisées par l'entreprise sociale pour faire ses missions. Et voilà, c'est une façon d'investir utile à 100%. Donc voilà, pour vous donner un peu les trois façons. Et pour finir, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'épargne solidaire en termes de montant? C'est pas une petite chose, hein, c'est 11 milliards de placements qui sont aujourd'hui dans le solidaire. Ça concerne plus d'un million d'épargnants qui ont choisi de placer une partie de leur épargne dans le solidaire. Ça grossit tous les ans de façon beaucoup plus forte que l'épargne classique et que l'évolution du reste de l'épargne, puisque en 2017, on n'a pas encore le taux de 2018, c'était plus 18%, l'augmentation des encours placés dans le solidaire par les personnes qui avaient fait le choix d'aller placer utile. Mais, et c'est un peu tout l'enjeu de l'épargne solidaire, c'est tout l'enjeu d'en parler de l'épargne et de la finance solidaire, de l'épargne et de la finance solidaire, tout l'enjeu c'est comment est-ce qu'on va arriver à se développer plus. Si on regarde par rapport à l'ensemble du patrimoine, c'est 0,23% du patrimoine placé des Français. Donc on a un potentiel important. Plein de choses sont en train de se faire, de se développer. Il y a du lobbying qui est fait, notamment par FinanSol, au niveau de la loi Pacte, pour que le solidaire soit proposé et que les gens connaissent cette façon d'épargner et puissent y avoir accès plus facilement. Mais c'est encore tout l'enjeu. Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer avec Vincent Dujardin qui va nous parler d'un projet.
Alors, bonjour à tous. Voilà, moi je suis Vincent Dujardin, cofondateur des Détritivores à Lyon. Et avant de parler argent, je me permets de vous présenter un peu ce que c'est que les Détritivores. C'est une entreprise donc, qui a été créée en avril 2018, hein, qui est encore toute jeune. Et l'idée, elle vient de trois constats. Alors, c'est sur les biodéchets. Hein. Notre business est basé sur les biodéchets. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que les biodéchets. Donc, tout ce qui est épluchures, fruits, légumes, viande, poisson, café, thé, voilà, tout ce qui est issu du vivant. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces biodéchets sur la métropole de Lyon, ils sont incinérés. Donc on brûle de l'eau, on transporte de l'eau, hein, parce que les biodéchets sont à peu près constitués de 80 à 90% d'eau. Et de l'autre côté, on a les agriculteurs qui utilisent de plus en plus d'engrais chimiques. Donc ce premier constat-là ne nous convenait pas. On s'est dit que, voilà, enfin, logiquement, ces biodéchets, c'est beaucoup plus intelligent de les composter, qu'ils puissent avoir un retour à la terre possible, et que ça ne part pas en fumée. Deuxièmement, le compostage, ça existe déjà. Il y a deux types de compostage. Il y a le compostage de proximité, géré associativement, avec un nombre de familles limité, certaines contraintes, on ne peut pas mettre de viande, pas de poisson, etc. Mais qui a le mérite d'être très local. Donc peu de distance entre la production des biodéchets et le traitement. Et de l'autre côté, l'autre type de compostage, c'est le compostage plus industriel, qui lui se trouve loin des villes et donc génère du trafic routier. Donc on transporte encore une fois ces biodéchets qui sont très lourds. Donc on perd un peu le bénéfice environnemental à faire du compost de par ce trafic routier. Et les grosses plateformes de compostage, c'est encore du foncier agricole qui a été bétonné et qui a été perdu. Voilà. Mais ça a le mérite de traiter du volume. Et l'idée des détritivores, c'est de se dire, trouvons-nous entre ces deux échelles, trouvons au sein de la ville ou en périphérie des terrains inexploités, des friches, notamment des friches, sur lesquelles on pourrait venir composter ces biodéchets le plus localement possible et pouvoir donc effectuer un retour à la terre sous forme de compost en limitant au maximum les transports. Et le troisième constat, c'est que quand on traite localement, on crée aussi des emplois localement. Et on évite encore une fois les trajets de « j'habite à la campagne, je viens travailler à la ville »,« j'habite à la ville, je viens travailler à la campagne ». Et Et le deuxième point, c'est que notre mode de notre concept crée plus d'emplois que l'incinération. En gros, pour 10 000 tonnes de déchets incinérés, ça va créer 3 emplois, alors que notre modèle à nous en crée 100 emplois pour 10 000 tonnes. Donc on met l'argent non pas sur un outil industriel qui est un incinérateur, mais sur l'emploi local. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur sur le quartier de Villeurbanne-Saint-Jean. Donc tous les emplois que l'on crée de collecteurs et de composteurs sont des ex-chômeurs du quartier de Villeurbanne-Saint-Jean. Voilà, donc ça c'est les détritivores Lyon. Ça fait depuis un an et demi que je suis à 100% sur le projet. J'ai démissionné pour ce projet-là. La société est créée en avril 2018. Les premières collectes en juin 2018. Et à ce jour, on a 25 points de collecte. Beaucoup de cantines, beaucoup de cantines et scolaires, et mais aussi on a un restaurant à la Doua, universitaire, des cuisines centrales, des maraîchers, des traiteurs, traiteurs bio, et voilà. Donc voilà, mais comment on gagne de l'argent, comment on fait fonctionner cette société, c'est les restaurateurs qui payent pour évacuer, pour traiter leurs biodéchets de manière séparée. Et alors ça peut paraître beaucoup pour un restaurateur, mais c'est pas très très cher. Et donc du coup c'est un métier de volume en fait, il faut faire beaucoup de volume. Et on a des investissements qui sont lourds au démarrage. Il faut acheter tout le bois pour construire les composteurs, acheter un camion ou louer un camion, etc. Et donc il faut, on a besoin d'emprunter au démarrage pour pouvoir se financer le temps que le camion tourne toute la journée et qu'on composte toute la journée, voilà. Et donc c'est pour ça que, qu'on a fait appel à la finance solidaire, hein, notamment via France Active et RDI. RDI qui est la branche de France Active régionale, qui nous ont beaucoup accompagnés à la fois sur le montage du business plan et le montage financier, et nous orienter vers les banques qui étaient à même de pouvoir nous financer. Voilà, je sais pas si je donne les chiffres, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin bon, ouais, bref, France Active nous a prêté à peu près 100 000 euros, à 50 000 à 0% et 50 000 à 2% sur 7 ans, voilà, donc avec un différé de 2 ans, toujours pour aider l'entrepreneur. Pendant 2 ans, on rembourse pas de mensualité. C'est qu'au bout de 2 ans, à partir du moment où on a commencé à avoir un business, un peu de rentrée d'argent qui nous permette de pouvoir rembourser. Et la caisse d'épargne nous a financé 100 000 euros à 1%, pareil, sur 7 ans, avec un différé de 2 ans. Donc, on est super contents. Parce que moi, c'est mon associé qui a lui déjà monté une société, m'avait dit, si tu veux bien dormir, il faut réussir à bien se financer au démarrage. Pour justement encaisser ces 2-3 années où on va dépenser plus d'argent tous les mois qu'on va en gagner. Et voilà. Voilà mon témoignage.
Donc bonjour, Frédéric Hello, Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Je suis en charge de l'économie sociale et solidaire. J'anime une équipe de 12 personnes pour un millier de clients sur la région Rhône-Alpes. Ce que l'on peut dire sur l'épargne solidaire, c'est que si une épargne peut être explicitement solidaire, toute épargne n'est pas forcément inutile aussi. À l'exemple du financement bancaire de certaines de ces structures, et vous avez eu un exemple là, l'argent qui lui a été prêté provenait d'épargnants qui n'avaient pas forcément souhaité, explicitement en tout cas, consacrer leur épargne à un financement d'une entreprise telle que celle-ci. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le paysage de l'épargne solidaire, la banque joue un rôle de mutualisation. Et la grande différence, en fait, c'est ce que tu disais, Lydie, c'est la volonté de l'épargnant. 1% aujourd'hui semble s'exprimer dans le sens de vouloir flécher leur épargne vers des projets utiles. Les 99 autres pourcents déposent leur argent dans des établissements financiers et en attendent une certaine sécurité. Une sécurité pour eux-mêmes. C'est notre première obligation. Notre deuxième obligation, c'est de transformer cette épargne, cette collecte, en crédit. Et c'est là où on joue notre rôle de mutualisation des risques, et ce qui permet là aussi de financer l'économie. C'est pas notre seul rôle, hein. on est né avec la finance. En fait, beaucoup de structures régionales, en tout cas bancaires, sont nées avec l'économie sociale et solidaire. Les caisses d'épargne, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, ce sont des caisses d'épargne et de prévoyance. Et à l'origine, c'était bien pour faciliter l'épargne des foyers plutôt défavorisés de l'époque. Je parle d'il y a 200 ans. Cette épargne s'est bientôt transformée aussi en utilité puisqu'elle a servi via le livret A à financer le logement social de façon très importante. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre sur nos fonctions ? C'est qu'il faut que vous preniez conscience aussi que l'épargne solidaire se diversifie beaucoup aujourd'hui. On assiste notamment à la création de fonds d'investissement, dits fonds à impact, qui investissent en direct dans des structures telles que celle-ci. Les fonds que tu citais tout à l'heure en épargne salariale, un des plus connus, c'est le fonds Initiative et Développement, ou Investissement et Développement, qui est un fonds 90-10. 90% de ces fonds sont consacrés à financer des entreprises, on va dire normales, mais fortement créatrices d'emplois. Et 10%, les 10% restants, sont consacrés à financer en direct, à prendre des parts de capital d'entreprises de l'ESS. C'est un fonds qui est géré là aussi par France Active, par la structure financière de France Active Investissement, et qui a été créé par, au milieu des années 90 par des syndicats de salariés, par la Caisse des dépôts et consignations et les banques. Voilà pour tout le petit témoignage que je pourrais vous apporter sur le rôle des banques dans ce dispositif. Je vais passer la parole à mon ami Cigalier.
Merci. Bien, bonjour. Donc moi, pour me présenter brièvement, je suis enseignant-chercheur en économie à l'Université Lyon 3, à l'IAE, et je suis également donc animateur d'un réseau de cigales, de trois cigales sur Caluire, sachant que sur la métropole de Lyon, on a en tout 7 cigales. Donc une cigale, c'est un sigle pour club d'investisseurs, pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Donc on met toujours cigale avec un S. Même quand on dit une cigale. Et il s'agit de quoi ? Pour présenter ça en quelques traits, il s'agit d'une quinzaine de personnes, donc des personnes physiques, ce sont des particuliers, qui décident de mettre en commun leur épargne, donc de se réapproprier leur épargne, de la gérer collectivement. Ce n'est pas une association, on fonctionne en indivision volontaire. Et puis on sélectionne, on rencontre des porteurs de projets directement. On est vraiment dans un circuit le plus court possible de la finance, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on sélectionne donc les projets à l'occasion de réunions avec des porteurs de projets sur des critères. Il y a une charte du mouvement des cigales, qui est aussi un mouvement national. Il y a à peu près 250 cigales en France. Sur des critères qui sont des critères écologiques, environnementaux, sociaux aussi. Et démocratique, on aime bien la démocratie d'entreprise, on aime bien soutenir par exemple et accompagner, hein, puisqu'on accompagne aussi les structures qu'on soutient. On aime bien donc flécher notre épargne vers les SCOP ou les SIC, donc des sociétés coopératives. La question du climat n'est pas absente de nos préoccupations. On a par exemple soutenu sur la métropole de Lyon plusieurs cigales, ont soutenu sur la métropole de Lyon la centrale photovoltaïque citoyenne qui est née de l'initiative de l'association Villeurbanne Toit en Transition, qui a donné naissance à une société qui s'appelle Un de Toit Soleil, qui a été soutenue aussi par la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Et il s'agit d'installer des toits, c'est une société qui propose aux mairies d'installer des panneaux photovoltaïques sur des toits d'école, par exemple. Et en même temps, il y a un enjeu pédagogique, bien sûr, à la clé. On soutient également une épicerie qui s'appelle l'épicerie Locavore Zéro Déchet à la Source, que vous avez, Place Guichard, dans le 3e arrondissement à Lyon. Je vous signale au passage, on peut le rappeler, le problème, ce qui est une motivation pour les cigaliers, puisqu'on les appelle comme ça, de retirer leur épargne ou leurs excédents, si on en a, de leur compte, des grandes banques, si on est client des grandes banques, puisque on a une étude qui vient de sortir de l'ONG Oxfam, qui montre qu'en fait, les grandes banques, sur la période 2016-2017, dans leur soutien et dans leur financement du secteur énergétique, pour 7 euros consacrés aux énergies fossiles. On n'a que 2 euros qui sont consacrés, donc sur 10 euros investis hein, dans le secteur énergétique. Pour 7 euros consacrés donc, sur les énergies fossiles, on n'a que 2 euros qui sont prêtés donc, aux énergies renouvelables. Bon. Je reviens sur les motivations des cigaliers. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une épargne qui va être investie à 100%. On évoquait tout à l'heure les fonds communs de placement 90-10. On n'a que 5 à 10% de notre épargne quand on investit dans un fonds commun de placement, qui est un mix hein, d'actions et d'obligations solidaires, qui va effectivement faire des entreprises solidaires labellisées ESUS, donc en entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc pour un cigalier qui fait attention à la transparence et à la traçabilité en fait, de ses fonds, ça pose un problème. Puisqu'on peut avoir des investissements contradictoires. Dans un fonds commun de placement, on peut retrouver dans les 5 à 10% de support du fonds 90-10, on peut se retrouver en soutien, par exemple, à... Finance Forest, je crois. Et on va nous dire, bon, parce qu'il y a des études d'impact qui sont faites là-dessus, je pense à un fonds en particulier, on ne va pas le citer, mais on va nous dire, bah, voyez, vous allez, grâce à votre épargne, permettre de préserver 20 hectares de terres agricoles. Et puis quand on regarde ce qu'il y a dans les 90 à 95 autres pourcents, on voit par exemple, alors, je passe sur les Total, qu'on voit British Petroleum, on voit également Royal Dutch Shell, mais on voit aussi Nestlé. Donc d'un côté, on va soutenir la préservation des terres, pour une petite partie investie dans le fonds. Et d'un autre côté, on va, l'histoire ne dit pas combien de terres ont été déstructurées en forêt amazonienne pour y planter de l'huile de palme, pour fabriquer de la pâte à tartiner qu'on connaît bien, produit Nestlé. Donc là, on se retrouve, hein, le cigalier, il fait attention à tout ça, on se retrouve en contradiction, d'où la motivation d'investir à 100%, hein, dans, 100% de son épargne vers des sociétés porteuses de sens, pour que notre argent ait un sens dans la totalité de ce qui est investi au départ. Première motivation, 100% d'épargne. Deuxième motivation, pas d'intermédiaire. On fonctionne un peu comme un commun. Un commun se réapproprie une ressource dans un collectif qui a une vocation locale. Et en l'occurrence, on essaye d'influencer à notre petit niveau. Hein. Le tissu économique du territoire dans lequel on habite, hein, dans un sens éthique et dans le sens donc du développement durable local. Je suis prêt à répondre à vos questions, évidemment, pendant la séance de questions. Je signale qu'on est une structure, quand on crée une cigale, on la crée pour 5 ans. On investit donc notamment par souscription au capital donc de ces petites entreprises pour 5 ans et on signe une convention avec l'entreprise qui est soutenue. On désigne généralement deux parrains ou marraines pour accompagner le projet. Et la convention qui est signée donc, permet donc de définir la relation qu'on va avoir pendant ces 5 ans et indique que la société s'engage à rembourser les parts sociales auxquelles on a souscrit au départ. On est plus engagé sur la plus-value sociale environnementale plutôt que sur la plus-value financière, vous l'aurez compris. En général, on ne demande pas de rémunération hein, du capital investi. Quand on fait des prêts également, parce qu'on peut aussi investir dans des comptes courants d'associés, en général, il n'y a pas d'intérêt. Ça dépend de chaque cigale. Chaque cigale est souveraine, mais en général, il n'y a pas d'intérêt qui sont demandés. Par ailleurs, alors c'est du capital risque solidaire. Donc, au bout de 5 ans, on retrouve tout parti ou pas. Hein, s'il y a des entreprises qui se cassent la figure au bout de 2 ans ou 3 ans, surtout des jeunes pousses. Hein, on a quand même un taux de survie, puisqu'on l'appelle comme ça, qui doit être, je ne sais pas, au bout de 5 ans, une entreprise, on en retrouve combien 60%.
Non accompagné, 50%.
Non accompagné, 50%. Donc l'avantage de l'accompagnement, c'est qu'on en retrouve plus au bout des 5 ans. Et donc, il est possible qu'à un moment donné, on n'ait pas le retour, de l'investissement initial. On n'en aura qu'une seule partie, ou on n'en aura pas si l'entreprise donc, ne survit pas au bout de cette période de 5 ans. On le sait, c'est du capital risque solidaire. En même temps, il y a une déduction fiscale qui est permise, qui provient d'une loi qu'on appelle souvent la loi Madelin. On peut déduire 18% des sommes investies si on conserve les parts sociales pendant 5 ans de son impôt sur le revenu, dans le cas où on paye l'impôt sur le revenu. Je donne encore quelques exemples, et puis ensuite on pourra passer aux échanges d'entreprises qu'on a soutenues alors sur la métropole de Lyon, sachant que les cigales de la métropole de Lyon font partie de l'association régionale des cigales d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été récemment créée, et qui fonctionne de façon décentralisée. On va mettre en place un pôle pour Clermont, un pôle pour Grenoble-Isère et un pôle pour Rhône, l'Ain et l'Ardèche. Puisqu'on a une cigale dans l'Ain, qui est la cigalite, qui s'appelle de ce nom-là, à Trévoux. Pendant que j'y suis, je vais décliner toutes les cigales, tous les noms de cigales de la métropole. Les trois cigales de Caluire s'appellent les Cigaluire, 1, 2, 3. Ensuite, vous avez une cigale qui s'appelle Essor, ESS, apostrophe OR, qui a remplacé, au bout de 5 ans, la cigale lyonnaise qui s'appelait la Cigone. On a également la Cigloriette, qui est la cigale de Villeurbanne. Et on a la cigale rieuse de Rieux-la-Pape. Et on a également une toute jeune cigale qui s'appelle la Steven Seagal. Donc la Steven Seagal, parfois ça fait réagir quand on connaît l'acteur américain qui s'appelle du même nom, donc il y a un jeu de mots. Et pour les projets donc, qu'on a soutenus, j'en cite quelques-uns, je ne peux pas les citer tous, mais on a Habité et Partage, je crois qu'ils ont un stand là, pas très loin, au salon Prime Vert, qui fait de l'habitat participatif. L'Alter Hostel, qui est une auberge de jeunesse à Avez, qui est Arloin, est co-responsable. Le bar associatif Les Clameurs, à Lyon. Les Curieux, qui est une boutique éthique, de mode éthique, donc sur Lyon également, dans le centre de Lyon. Le théâtre Nidpool à Rue Royale, qui fait aussi des concerts, concerts-théâtre, avec un espace aussi de coworking. Et on a aussi l'entreprise Rhizome, qui conçoit des intrants naturels pour récupérer les sols détériorés par les pesticides. Santé commune, le centre associatif médical de Vaux-en-Velin. Et j'en passe parce que je ne peux pas tous les citer. Voilà, je vous remercie.
Merci. Donc maintenant, place aux questions.
Bonjour. Donc j'étais curieux de voir ce que pouvait donner cette soirée. Et je trouve qu'il manque un élément complémentaire, c'est que la banque éthique, il y a une banque éthique qui existe, je ne sais pas si vous le savez, qui s'appelle la NEF. Et il y a aussi en complément donc les cigales, parce que je suis on va dire, un sociétaire de cette banque. Et l'intérêt de cette banque, c'est aussi le côté traçabilité. Ce qu'a énoncé le monsieur de la cigale, il essaie de vous dire, votre argent, il va à un endroit et vous savez le flécher, vous allez le voir. Ce que je trouve super, je trouve le boulot de monsieur le représentant de la Caisse d'épargne fabuleux, parce que je veux dire, c'est important, mais ça représente malheureusement, à mon goût, très peu par rapport à ce que peut faire une grosse banque, parce que la Caisse d'épargne, c'est une grosse banque. Je lui poserai la question, et je pense qu'il pourra nous répondre, savoir s'il sait flécher, c'est-à-dire s'il sait nous dire, ou si on sait voir, c'est que l'argent que moi j'ai mis sur mon compte à la Caisse d'épargne, savoir dans quel projet je le mets. Ce qui est intéressant dans cette création de banque éthique, qui est une création, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis 2-3 ans, qui n'a pas tous les mêmes outils qu'une banque qui est là depuis 50 ans, mais qui s'appelle la NEF, et qui a l'avantage, c'est qu'elle édite chaque année tous les prêts qui sont faits, vous savez, où l'argent est allé. Donc il y a une transparence. Elle a aidé aussi à des fonds qui, eux, ne sont pas à 5%, 10%, 20%, mais qui sont des fonds qui sont à 100% pour, par exemple, le développement de l'agriculture, qui s'appelle Terre de Liens, qui s'appelle pour aider les corps de petites villes ou des gens qui se sont construits en comité pour créer des fermes d'éoliennes, mais qui sont gérées par les citoyens. C'est énergie partagée. Donc, il y a une force citoyenne qui existe. Je vous invite à vous intéresser et qui est transparent. Et aussi à agir auprès de vos banques, qui font des choses fortement intéressantes, mais à aider les gens justement qui en font partie pour avoir cette transparence. Parce qu'aujourd'hui, l'argent que vous mettez sur un compte, les banques sont incapables de vous dire où il va. Et ça, c'est malheureux, parce que dans ces cas-là, vous pourriez dire, ben non, moi, je veux pas que ça aille à cet endroit-là. Et donc, le travail que fait, je ne vois pas votre nom, donc je ne peux pas vous citer, mais est fabuleux, mais malheureusement, pour moi, c'est très petit par rapport à ce que peuvent faire les banques, et que le citoyen a des actions, et il y a des choses qui existent, et qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas représentées, donc je me permets. Mais donc, ma question était...
Alors, d'abord, la NEF, je la connais très, très bien. Je travaille très régulièrement avec elle, que ce soit en cofinancement ou pour des raisons de relations que nous avons, étroites, puisque nous sommes étroitement liés dans un même groupe, qui comprend aussi le crédit coopératif et la Banque Populaire, mais les liens sont, je sais, pas tout à fait. Voilà. Mais. Ouais. Ouais. Mais la NEF s'appuie sur des alliés bancaires, dont j'ai le plaisir et l'honneur de faire partie. La traçabilité, c'est une question très intéressante. Et j'ai essayé de vous dire tout à l'heure en introduction, dans cette fameuse mutualisation, c'est ce qui nous empêche de le faire en fait. C'est que, pour l'instant en tout cas, parce que là je ne peux pas garantir à Madame Dupont que son euro de compte à terme ou de livret A, si peut-être, ça je peux lui dire peut-être, ou que son euro sur son livret développement durable, je ne peux pas lui garantir qu'il va aller à l'entreprise Durand. Mais je peux lui garantir déjà, et c'est pas mal, c'est moins bien que la NEF, mais c'est pas mal, je peux lui garantir que son euro régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il va aller financer un foyer, une entreprise, une collectivité territoriale de la région Rhône-Alpes, parce que je ne finance que des projets qui sont dans ma région. Et j'utilise pour ça les ressources qui viennent de mes crédits, viennent à 80 à 90% de la collecte de mes clients particuliers qui déposent sur leur compte. Ça, c'est la seule garantie que je peux faire. Je ne suis pas très original ni très brillant quand je dis ça, puisque le Crédit Agricole fait la même chose, le Crédit Coop fait la même chose, la Banque Populaire fait la même chose, le Crédit Mutuel fait la même chose. Pas la BNP, pas la Société Générale, pas le Crédit Lyonnais. Ça, c'est la grande différence. La deuxième autre grande différence, et c'est pour ça que le modèle original de la NEF nous montre la voie sur pas mal de sujets, mais il y en a quand même une autre aussi, c'est que statutairement, nous sommes aussi une banque coopérative. C'est-à-dire que nous avons une certaine indépendance dans l'utilisation de nos fonds et notamment vis-à-vis des marchés financiers. C'est-à-dire que les propriétaires des caisses d'épargne, des crédits agricoles, je ne suis pas là pour faire de la pub, donc je les cite aussi, de ces banques régionales, c'est des gens de la région qui détiennent notre capital au travers de parts sociales. Ça, c'est extrêmement important. Et ce que je peux regretter, moi, et ce que nous regrettons souvent aussi, c'est que ces gens-là qui sont censés piloter la gouvernance de nos banques, on a du mal parfois à les animer, à les motiver. C'est un peu comme l'abstention dans le droit électoral. On aimerait qu'ils soient plus avec nous et plus participatifs aussi pour nous aider à orienter notre stratégie. Mais oui, la traçabilité, c'est certainement un des enjeux sur lesquels il va falloir qu'on se penche assez rapidement. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai été aussi en charge des entreprises et des professionnels avant dans cette banque. C'est que du fossile, j'en ai pas. La caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas d'investissement dans les énergies fossiles. En revanche, dans le photovoltaïque, ça, je peux vous garantir que oui, sur des échelles assez importantes ou des échelles plus modestes au niveau macro, mais très importantes au niveau micro, c'est ce que vous décriviez sur les centrales photovoltaïques citoyennes. Donc oui, mais en même temps, il faut savoir que vous avez envie de militer pour que votre épargne soit fléchée vers des entreprises que vous voulez connaître. Dans un deuxième temps, il ne faut pas oublier que le financement de la création d'entreprises, c'est aussi parfois l'honneur de gens qui font mon métier, et je n'ai pas peur de le dire, c'est aussi de prendre des risques. Et prendre des risques avec de l'argent qui n'est pas à vous, vous savez que c'est souvent ce qu'on reproche aux banques également. Donc il faut que ce soit assez mesuré, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette mutualisation. Voilà, malgré tout.
Simplement pour compléter, la NEF est effectivement pas représentée personnellement. Elle fait partie de Finansol, comme 75 autres membres, avec son statut un peu spécifique de banque type, mais avec 74 autres membres qui ont tous une spécificité. Le monde du solidaire, c'est surtout pas le conventionnel, c'est que chacun arrive avec sa propre spécificité, mais elle fait bien partie du giron Finansol. Elle fait d'ailleurs partie des structures fondatrices au départ. Et le critère de transparence fait aussi partie des critères importants au niveau de la finance solidaire qu'on regarde tout spécifiquement dans le label, puisque Finansol donne un label aux produits qui sont solidaires, un label Finansol, et la transparence en fait partie, effectivement. Voilà, juste pour compléter.
Bon,
Bonjour. Alors, moi, je me posais une question plutôt sur la rentabilité du financement solidaire. Parce que, bon, après, je ne prétends pas avoir fait une étude exhaustive, mais j'ai l'impression que les rentabilités sont quand même inférieures à ce que propose la Société Générale, Crédit Lyonnais, enfin, les banques normales, entre guillemets. Alors que, par exemple, je sais pas, la vente de produits bio, elle a une croissance à deux chiffres depuis plus de 5 ans. Le photovoltaïque, il y a tous les distributeurs qui veulent absolument vendre à leurs clients de l'électricité verte et donc qui se précipitent pour acheter des certificats de production, etc. Donc je me demandais un petit peu à quoi c'était dû. Voilà.
Alors, la rentabilité, peut-être que la NEF pourrait nous aider d'ailleurs, puisque le support d'épargne que vous proposez, il a un taux contractuel fixé à l'avance, qui est connu. La question était, la rentabilité de ces fonds éthiques sont moindres. Après, j'ai un autre exemple.
Pour répondre à votre écho, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale par rapport à ce qui s'est passé lors de la crise bancaire. Les fonds européens, nos impôts, ont aidé les banques pour qu'ils aient de l'argent à 0%. Faut comprendre que le fonctionnement de la NEF, qui est aussi une coopérative, c'est que moi, je place mon argent sur un compte. Cet argent, il va être utilisé par une équipe qui accepte d'être moins payée, on va dire, que dans le circuit bancaire traditionnel. Moi, j'accepte que ce soit moins rémunéré. Et de l'autre côté, ils prêtent de l'argent à des gens et qui acceptent d'être peut-être un petit peu plus rémunérés ou au même standard. Mais le prêt, c'est l'argent qui est disponible. Tout l'argent qui est disponible va servir à ça. Et donc, la problématique de la NEF, c'était qu'elle n'avait pas l'argent à 0% mis à disposition. Vous avez dû voir les prêts ces 10 dernières années qui ont dégringolé parce que c'était subventionné. Et ça l'est toujours un petit peu. La NEF n'a pas le droit à ça. Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte NEF, vous savez ce que fait votre argent, mais il est rémunéré très peu, comme un livret. Un livret, aujourd'hui, c'est quasiment pas rémunéré. Donc vous avez la possibilité de faire cadeau de certaines parts de cette rémunération, ou de la garder, mais c'est très, très faible. Parce que c'est valable partout. Voilà.
La question de la rémunération, elle est intimement liée à la courbe des taux actuels, qui est très faible. Donc que ce soit solidaire ou pas, la seule chose qu'on peut vous proposer, aujourd'hui, les taux jusqu'à 5 ans sont négatifs. Il faut juste faire un effort, parce que c'est pas intuitif, mais les taux aujourd'hui jusqu'à 5 ans sont négatifs. Donc forcément, attirer de l'épargne sur ces durées-là, de 0 à 5 ans, ce qui correspond à la plupart des placements de base assez classiques, eh bien, dites-vous bien que quand on vous propose encore un livret A qui est rémunéré ou un livret B qui est rémunéré à 0,40, 0,50, j'ai un trou de mémoire là tout d'un coup, mais c'est à peu près dans ces eaux-là, c'est quelque chose d'énorme par rapport à un dépôt dit à vue, c'est-à-dire disponible immédiatement. Donc la question de la rémunération, elle est... Voilà. Après, quand on arrive sur des produits un tout petit peu plus sophistiqués, le 90-10 que vous réévoquiez tout à l'heure, qui n'était pas celui auquel je pensais, ces fonds-là, il y a tout de suite une part de risque derrière, puisqu'on investit dans des entreprises, donc on investit aussi dans du risque. À ce moment-là, l'exemple que j'ai en tête, la croissance des 5 dernières années était de plus 55%, et la croissance de l'année dernière était plus 11%. Mais ce sont des croissances passées, ça ne veut rien dire. Peut-être que s'il y a un krach boursier, ça va retomber. Donc moins vous acceptez de risque, plus vous voulez de l'épargne liquide, c'est comme dans la vraie vie normale, à la limite de l'épargnant, moins vous êtes rémunéré, plus vous allez accepter du risque, plus vous serez rémunéré, mais vous prenez le risque de perdre votre capital. Et c'est ça aussi que beaucoup d'établissements financiers, c'est le risque que nous, en tout cas, on ne veut pas faire prendre à nos clients, bien entendu.
Voilà, et simplement pour compléter, on peut dire de façon assez... global qu'un placement solidaire rapporte un peu moins qu'un placement classique, ne serait-ce que parce qu'une structure solidaire va aller placer l'ensemble de ses fonds et de ses moyens au service de ses missions. C'est moins évident, je dirais, aujourd'hui, parce qu'avec ce que tu disais sur les rendements qui sont très très faibles, bah, la différence est moins forte. Mais dans le fond, c'est quand même ce qu'il faut se dire. Un placement solidaire, ça rapporte souvent moins qu'un placement, on va dire, classique. C'est très générique. Hein. Deux éléments à avoir en tête. Un placement solidaire, notamment, par exemple, investir au capital. On parlait des cigales, ou investir au capital d'une structure comme l'ACIDI, comme France Active, comme Habitat Humanisme. C'est aider fiscalement, c'est-à-dire qu'il y a une réduction d'impôt à hauteur de 18% du montant de ce que vous investissez sur votre impôt sur le revenu. Donc ça, c'est aussi une forme de rendement qu'on peut avoir en tête si on est concerné par ce type de réduction. Voilà. Et puis pour finir sur la réponse, c'est vrai que la partie verte, vous parliez de ce côté-là, où finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de rendement sur la partie verte ? Je pense que quand on parle de placement, on a un cercle global de placement qu'on peut appeler les placements à impact. À l'intérieur, il y a le solidaire. Et à l'intérieur, il y a les placements verts. Les placements verts, on a souvent un peu plus de rendement que sur le solidaire. Voilà.
Oui, non, je voulais juste compléter par rapport à la question de tout à l'heure. Sur la nef, je suis aussi sociétaire actif à la nef, et on a un fléchage ciblé. Le livret des prêts qu'on peut télécharger sur le site de la nef vous donne le nom de l'emprunteur, le projet, description du projet, donc l'activité, le lieu, le montant. Donc on est vraiment dans une transparence qui n'existe dans aucun autre établissement de crédit en France. Et ce que fait par exemple le crédit coopératif dont on parlait tout à l'heure, à ma connaissance, on annonce par exemple que il y a des caisses régionales du crédit coopératif, enfin bref, sur telle région de France, on a financé pour deux tiers l'économie sociale et solidaire. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est une boîte noire en même temps, hein. On y met parfois des entreprises qu'on n'attend pas, comme les centres Leclerc. Donc attention, je ne dis pas que le Crédit Coop finance les centres Leclerc, mais ce que je veux dire par là, c'est que la précision qu'on a dans la traçabilité de l'épargne, on n'a pas l'équivalent que ce qu'on trouve à la nef et puis aussi donc dans les clubs de finances citoyennes directes, hein, que sont les CIGAL.
Je ne suis pas démenti.
Non. J'aurais pu aussi me couvrir derrière le réglementaire, puisque le secret bancaire ne peut être relevé qu'avec le consentement du client. C'est une règle aussi que nous avons. Mais je ne l'ai pas fait, hein. Je n'en ai pas parlé.
Y a-t-il d'autres questions ? Sinon, j'en avais une concernant les cigaliers par rapport aux statistiques que vous avez sur Lyon, là, par rapport à l'ensemble des investisseurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis de l'argent et qui l'ont complètement perdu ou perdu partiellement ? Et est-ce qu'il y a un suivi de l'entreprise que vous soutenez, j'imagine ?
Alors, pas de statistiques. Quand une cigale... pas de statistiques dans l'immédiat. Quand une cigale... elle se crée pour 5 ans et ensuite si elle ne se renouvelle pas pour 5 ans encore, elle passe en gestion pour 5 ans encore. Donc c'est à bout de 10 ans qu'on sait qu'on peut faire le bilan. Et là, le réseau métropolitain, il est très très jeune, donc on peut pas avoir de retour là-dessus global. Sur la question, est-ce qu'on accompagne ? Oui, alors c'est l'une des motivations, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire un chèque. On nomme deux personnes en général, on désigne, hein, qui, en fonction de leur temps disponible, donc, vont pouvoir faire bénéficier de leur réseau ou de leurs compétences, si elles en ont. Hein. Parfois, on a des compétences en marketing, en comptabilité... en stratégie, etc. Ça peut arriver. C'est pas l'objectif non plus qui est recherché au départ. Hein. Un cigalier arrive sans son CV. Et à minima, les parrains-marraines des projets assistent aux assemblées générales. Et puis ensuite, ça peut être, en fonction du temps disponible, le coup de pinceau avant l'inauguration. On peut aussi remonter le moral des chefs d'entreprise, parce que parfois, c'est assez compliqué de créer une entreprise. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les entreprises non accompagnées ont un taux de survie bien moins important. Et justement, il y a un cigalier qui rentre dans la salle. Bonjour. Et voilà, j'ai répondu à votre question.
Ouais. Tout à fait. Et quelle est la somme moyenne que les cigaliers mettent?
Oui, j'ai pas indiqué en fait la contribution. Le statut des clubs d'investisseurs solidaires, en fait, au départ, c'est le statut des clubs d'investissement. Les clubs d'investissement ont été créés en mai 68. Rien à voir avec les barricades. Et ont été créés dans un but pédagogique au départ pour s'essayer à la bourse. Voilà. Donc, Il y a une association en 1983 qui s'appelle l'ALDEA, l'Agence de liaison pour le développement de l'économie alternative, qui a repris ce statut pour créer la première cigale en le détournant, parce que c'est le nom est Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Mais néanmoins, et puis on s'est doté d'une charte en même temps, indépendamment donc des clubs d'investissement. Du coup, j'ai perdu le fil. Le montant donc est imposé sur une fourchette par le statut club d'investissement et il se situe pour chaque cigalier ou cigalière entre 8 euros et 450 euros par mois. On est limité à 450 euros par mois. On ne peut faire partie aussi que d'une seule cigale pour des raisons fiscales. Voilà.
Merci.
Et donc, les projets, en fait, c'est quelques milliers d'euros qui sont investis. Souvent parce qu'il y a un cofinancement entre plusieurs cigales. Et puis on cherche à faire effet de levier. C'est-à-dire on sait que ce sont des sommes qui ne sont pas considérables, on cherche à faire effet de levier. C'est-à-dire qu'une entreprise qui sera cigalée, puisqu'on les appelle comme ça, va pouvoir dire il y a un réseau derrière moi et s'adresser donc à Frédéric Kello de la Caisse d'Épargne, par exemple, et puis à RDI, Rhône Développement Initiative, France Active. Et puis finalement, il y aura un tour de table financier et on va participer donc à cette. À l'ensemble de ces structures qui font partie des financeurs solidaires.
Une petite question qui est peut-être pas, que je ne devrais peut-être pas poser ici. Vous avez parlé du crédit coopératif et de la NEF. Est-ce que vous savez si ces banques ont des succursales à l'étranger et dans quel pays? Est-ce qu'on peut le savoir?
À ma connaissance, non. Mais je peux me tromper. La NEF est dans un réseau, c'est dommage qu'il soit parti, mais la NEF doit être dans un réseau européen, je pense, de liens forts sur la microfinance et différents sujets, parce que par exemple son actuel patron est un Belge, si je ne me trompe pas, d'origine, il arrive d'une société financière belge.
Dans les couloirs.
Voilà.
Oui, et le crédit coopératif est aussi dans un ensemble.
Oui, mais même les caisses d'épargne, il y a des liens internationaux aussi, mais qui ne sont pas des liens forcément capitalistiques. Ou bien via la filiale commune à ce groupe qui s'appelle Natixis, qui leur permet effectivement d'avoir des implantations. Mais des implantations à l'étranger directement détenues par nous, non. Non.
Bonjour à tous. Moi, je voulais savoir ce qui poussait une entreprise comme la vôtre, donc Detritivores, à... qui va chercher dans du financement solidaire. Est-ce que c'est parce que ça a été refusé par une autre banque traditionnelle qui fait que vous êtes retourné? Est-ce que c'était un engagement dès le départ de chercher là-dedans? Enfin voilà, qu'est-ce qui pousse dans ce sens-là en fait?
Alors oui, en fait quand on crée une entreprise, au début y a tout un tas de trucs à faire. Et à un moment donné, on est vraiment débordé, jour et nuit, on y pense. Enfin, c'est assez. Je vais plagier Nicolas Hulot, mais c'est chiant du matin au soir d'être entrepreneur. Mais du coup, arrive le moment où il faut se financer, et on a tellement de choses à faire que on savait nous à peu près les banques qu'on voulait cibler. Donc c'était Crédit Coop, Banque Postale et Caisse d'Épargne. On savait que ces trois-là étaient relativement éthiques. La NEF, on n'avait pas trop de contacts, on ne connaissait pas, et donc voilà, on est allé voir ces trois banques-là. La plus réactive a été Caisse d'Épargne, ils nous ont fait une offre, on a dit, bon, allez, c'est bien, on passe à autre chose, quoi. Et donc, c'est un peu, voilà, il y a un peu ce côté-là, il y a toujours un idéal qu'on vise, dire, tiens, moi, j'aurais vraiment aimé être financé par la NEF. Il y a une réalité, c'est qu'on est au four, au moulin, et dès qu'on peut solder un problème, on le solde. Et on passe, voilà, la réalité nous rattrape un peu, quoi.
Je crois que juste pour compléter, je ne vais pas du tout revenir sur ces motivations, mais il y a une solidarité aussi entre financiers. C'est-à-dire qu'un plan de financement, ça se fait à plusieurs, et il y a un réseau entre nous aussi. Ce fait que les dossiers, on les connaît tous, en fait. Et c'est vraiment participatif dans le sens où RDI garantit notre prêt, une cigale peut intervenir au capital. Tout ça fait un plan de financement et donne aussi de la crédibilité à l'entrepreneur.
Si vous avez d'autres choses à ajouter ou des idées que vous souhaitiez développer?
Non, je voulais, puisqu'on a un petit peu de temps, parler d'une question de financement de la Banque Centrale Européenne qui a financé au travers de ce qu'on appelle de façon un peu technique, le quantitative easing et l'assouplissement quantitatif à coût de dizaines de milliards d'euros Donc les banques, qu'ils ont répercuté, mais très peu à l'économie réelle, donc après aux entreprises et aux ménages. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour essayer de ne pas retomber dans une dépression comme on en a eu à la crise de 29. Et puis, il y a eu la crise des dettes publiques européennes également. Et donc, il s'agissait d'inonder de liquidités les banques, puis le marché, puisque les banques ont replacé beaucoup sur le marché, notamment en titre d'emprunt d'État, de façon à ce que, justement, on ait des taux d'intérêt très bas pour que ça soutienne un petit peu la croissance économique, pour qu'on ne tombe pas, en tout cas, dans le rouge. Le gros problème de tout ça, c'est que ça n'est pas du tout orienté vers la transition écologique, sociale de nos territoires. Et qu'on a même eu des rachats par la Banque Centrale Européenne directement d'obligations d'entreprises comme des Renault, secteur automobile, des BMW, Total, Engie, secteur énergétique, les sociétés d'autoroutes également. Et que là, on demande aux citoyens lambda en Europe de contribuer à la lutte contre le changement climatique, alors que dans le même temps, on réchauffe le climat au travers de ces financements qui, encore une fois, font c'est équivalent à plus d'une centaine de milliards d'euros. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a des mouvements qui sont créés pour essayer de réorienter le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne vers la transition écologique et la transition climat. Donc il y a tout un mouvement citoyen aussi qui s'est créé. Je cite l'un d'entre eux, qui est le pacte finance climat, à l'initiative d'un climatologue et d'un économiste, Jean Jouzel, qui est un ancien vice-président du GIEC, et Pierre Larouturou, ancien ingénieur agronome et également économiste, qui lance donc le pacte finance climat. Donc le pacte finance climat, il s'agit tout simplement de créer une banque climat au travers d'un nouveau traité européen qui soit une filiale de la Banque européenne d'investissement, de façon à flécher la création monétaire. C'est une création monétaire, il ne s'agit pas de faire appel au budget. C'est toujours compliqué de faire appel au budget puisqu'on a toujours les 3% de déficit public sur PIB à respecter. Donc c'est de la création monétaire. Bon, parfois on dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais là il y en a un petit peu, en quelque sorte. Ça pourrait donc bénéficier à des secteurs comme l'isolation thermique des bâtiments, des secteurs comme l'énergie solaire, et l'agriculture biologique dont on parlait tout à l'heure, etc., etc., etc. Pacte finance climat, vous avez ça sur Internet. Si vous allez au stand Alternatiba, vous avez aussi toutes les informations parce qu'ils ont les flyers. Et je connais bien aussi les événements sur le Rhône parce qu'à l'Université Lyon 3, il y aura une conférence le 7 mars avec Pierre Larouturou. Et on peut signer le pacte aussi sur Internet ou sur place à l'occasion. Voilà.
Ce que j'allais dire, voilà, le citoyen, il peut signer une pétition, c'est ça? Sur
oui,
le pacte finance.
On peut signer sur Internet, oui, bien sûr. Ouais.
D'accord. Et la conférence avec Pierre Larouturou, le 7 mars, elle est ouverte au public?
Le 7 mars, alors de mémoire, c'est à 19h à vérifier. Ouverte au public, il faut mieux s'inscrire sur le site. Alors, il y a des déclinaisons locales. Hein. C'est un mouvement national, mais c'est sur Rhône, bah, c'est Pacte Finance Climat Rhône. Vous allez sur la page Facebook, je pense que vous avez trouvé de quoi vous inscrire. Ou peut-être sur le site de l'Université Lyon 3, mais de l'une ou l'autre manière, vous y arriverez, je pense.
D'accord, voilà. Merci. Pas de regrets, d'autres questions? Non? Merci à vous quatre de vos interventions.